Mais qu'est-ce qui te prend? Ça devenait cool.
Je veux pas en entendre davantage. Un point, c'est tout.
Arrête de la faire flipper, Scotty. C'est pas drôle.
Hey, faut qu'on écoute la suite. C'est quand même pas la mer à boire.
Tatra amistrobin hazarta. Tantir mano manzizon hazan sobar. Saman la robza. Dar his hiker dans de rosa. Ganda.
Éteignez-moi ça.
Ganda.
Éteignez-moi ça.
Ganda.
Éteignez ça.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. J'étais fatigué.
J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu me retailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, trop stupide. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Tu vas comme ça?
Alors là, ça me dépasse. Elle t'avait demandé d'arrêter ça. T'as bien vu que ça la perturbait. Faut toujours que tu pousses le bouchon trop loin.
Et là, je marche pas. T'es aussi fautif que moi. T'aurais pu l'arrêter, ce truc. Et puis, c'est pas la mort. Elle est complètement cintrée, cette nana.
Ça va.
Non, mais c'est qu'une blague, merde, à la fin. J'y crois pas, ça. On dirait qu'elle a 3 ans d'âge mental.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B en direct, sans filet, avec toujours le docteur Moreau. Bonjour docteur.
Salut les kids.
Une émission chargée, un programme important puisqu'on parlera de Bruno Dumont, de Judas Pato, de Sam Raimi et de des frères et sœurs Wachowski. Je sais pas exactement comment ils veulent qu'on les appelle maintenant.
Je sais pas, la fratrie Wachowski, enfin des monstres quoi. Enfin,
bref, on parlera aussi d'eux à la fin de cette émission. On va commencer avant ça par un petit mot sur John McTiernan pour tous ceux qui sont pas au courant. John McTiernan, donc le grand réalisateur de Piège de cristal, Predator et puis d'une palanquée d'autres chefs-d'œuvre, va rentrer en prison 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il a menti au FBI suite à des mises sur écoute illégales de son producteur lors du tournage de Rollerball. C'est un grosso modo un bouc émissaire puisque plein d'autres personnalités du showbiz à Hollywood avaient eux aussi fait appel à ce détective privé qui faisait plein de choses illégales.
Monsieur Pelicanus, je crois.
Voilà, c'est ça. Qui lui aussi est en prison d'ailleurs, mais qui risque de sortir parce qu'il connaît des trucs et des machins. McTiernan, lui, donc, est un peu suicidaire puisque depuis 10 ans maintenant, il est plus capable de faire des films et que donc il va rentrer en prison et que c'est mal barré pour qu'il en refasse. Va rentrer en prison. Il y a du coup une page de soutien sur Facebook qui a été lancée. Beaucoup de gens, du coup, s'y inscrivent. À la fois pour du coup montrer leur soutien, mais aussi pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Si vous voulez toutes les informations sur l'affaire, tout bordel, sur la page Facebook Free John McTiernan ou Free McTiernan d'ailleurs, vous pouvez trouver tout ça. Et puis voilà, nous on avait une grosse pensée sur le bonhomme.
Il y a un très bon article sur le site Capture Mag, qui est un article d'Arnaud Bordas qui revient un petit peu sur les tenants aboutissants de cette affaire-là, et notamment le rôle de ce détective privé limite mafieux. Pelicanos, hein, ouais. Je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, qui revient un petit peu. Pourquoi c'est quand même un petit peu, qui fait vraiment le bouc émissaire, McTiernan.
Et puis, l'autre truc, c'est que donc McTiernan, lui, ne reçoit aucun soutien quasiment depuis justement les États-Unis, depuis les stars. Alors qu'en comparaison, justement, une affaire comme celle de Polanski, qui était lui accusé de d'attouchement ou de sexe par surprise sur une jeune fille, lui avait reçu un soutien international et du coup, il s'en est sorti. même si du coup il peut plus être aux États-Unis. Mais McTiernan, lui, de son côté, en fait, n'a aucun soutien quasiment, ou de, enfin voilà, c'est très très rare. Et aux États-Unis, en tout cas, il en a quasiment pas. Donc voilà, il y a un moment que les gens faut qu'ils se bougent le cul, même ouais, si
ça commence à se bouger, parce que du coup, oui, depuis la création de cette page-là,
il y a peu de chances quand même que, ouais, que cette page permette oui, de toute façon non, qu'il évite la prison. Ouais. A priori, il va devoir faire son un an de prison, et puis il a 100 000 $ d'amende, je crois, en plus à fournir, alors qu'il est déjà ruiné, le bonhomme. Et donc voilà, c'est une situation assez dramatique, et c'est terrible qu'il y ait aussi peu de gens qui en parlent, même si du coup ça commence à venir du coup grâce à cette page.
Il y a même un article dans Télérama, quoi, où ils font même leur mea culpa au sein même de l'article pour avoir maltraité les films de McTiernan lors de leur sortie, et notamment Predator.
C'est et puis drôle. Ils ont mis aussi Le cinéma est mort en couverture.
Oui, on est en couverture
semaine
de Télérama, ça c'est cool.
On va du coup s'écouter un morceau pour John McTiernan, et puis juste avant un petit extrait de Judd Apatow dont on parlera après du coup ce morceau des Clash. Voilà, à tout de suite.
Bonjour Monsieur Simmons.
Oui, docteur, content de vous voir, ça va? Je suis avec mon ami, c'est mon amant, mon compagnon, ma moitié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est?
Je dirais que votre système immunitaire est en plein cœur de la bataille. Le médicament essaie de combattre la maladie, mais dans le processus, il détruit les tissus sains et perturbe le bon fonctionnement de vos organes et des multiples vaisseaux lymphatiques. Du coup, vous êtes attaqué sur deux niveaux. On espère vaincre la maladie avant que le médicament ne fasse des dommages irréparables dans votre corps.
Ok. Votre accent est très prononcé. Vous êtes conscient que votre accent rend les choses encore pires qu'elles le sont déjà? Vous pourriez donner des bonnes nouvelles que je dirais encore qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir, c'est ça?
J'essaie juste de vous aider.
Je sais que votre accent est correct dans votre pays, mais ici, je continue à penser que vous allez torturer James Bond tout à l'heure.
Je suis sûr que votre sens de l'humour vous sera utile dans cette situation.
Tiens, là encore! Tout est terrifiant quand la phrase sort de votre bouche.
Vous avez beaucoup d'esprit.
Vous êtes énervé parce qu'on vous tue dans Piège de cristal?
Désolé, je ne comprends pas la référence.
Ouais, c'est vrai qu'il ressemble aux jumeaux dans le deuxième Matrix.
Je vous assure que j'ai pas joué dans Matrix.
Pourquoi vous avez mangé Björn Borg? Qu'est-ce qui vous a fait?
Si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai d'autres patients qui attendent.
Il y a d'autres patients à qui vous devez faire encore peur d'ici ce soir. Vous faites peur à combien de gens dans la journée?
Et là, je commence à être quelque peu ennuyé par cet humour que vous êtes en train de faire à mon dépens. Je crois que qu'on en a discuté. Je suis vraiment très, très. Je compatis à votre rétablissement et j'espère que nous réussirons dans ce que nous faisons.
J'ai bien tenté de monter les étagères et les meubles achetés chez vous il y a 6 mois, sans deck.
IKEA, c'est très marrant.
Money, God.
Je peux tout vous expliquer.
Fais-le donc, Billy. Explique-moi tout.
Expliquez tout.
Tu n'as pas honte, Billy?
Non, j'ai pas honte.
Bravo! Ouais,
bravo, Billy! Merci.
Une chose m'inquiète profondément, Billy. C'est de savoir comment votre mère va prendre ça.
Mais vous n'avez qu'à ne pas lui dire, Miss Ratched.
Rien ne m'y force. Mais votre mère est une amie très chère. Nous sommes liés de longue date.
Ne dites rien.
Vous ne croyez pas que vous auriez pu y réfléchir avant d'emmener cette femme dans cette chambre?
Voilà, dans l'ordre, vous avez pu entendre un extrait de Funny People de Judah Pato, et puis à faute de l'eau de The Clash, et à l'instant un extrait de Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, puisqu'on va parler de Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont, qui se passe donc dans un hôpital psychiatrique en 1915 avec Camille Claudel, donc sur quelques jours, l'espace où du coup Camille Claudel attend la visite de son frérot, hein, Paul Claudel, dans cet hôpital psychiatrique, un film de Bruno Dumont qui a fait quand même des choses qui moi me plaisent vachement, hein, même si ces derniers, que ce soit Deviche ou Hors Satan, m'avaient quand même pas mal ennuyé. D'ailleurs, j'avais presque oublié qu'il avait fait Hors Satan. Je me demandais, c'est quoi son dernier film déjà? Et ça m'était passé au-dessus du crâne. J'ai l'impression que c'était juste un film de plus. Là, Camille Claudel a, contrairement à Hors Satan, je m'en rappellerai, je pense, parce que ça faisait très très longtemps que je m'étais pas autant fait chier au cinéma et que j'avais passé une aussi mauvaise séance. Il est d'ores et déjà rentré dans mon flop 5 de l'année 2013. Donc, Bruno Dumont filme Juliette Binoche. Voilà. Il a beau vouloir, lui, depuis des années et des années, affirmer que il refuse du coup les acteurs professionnels qui vont faire comme ça des grands numéros d'acteurs, et qui d'ailleurs il s'encadre depuis toujours d'acteurs non professionnels, et encore là d'ailleurs il mélange Juliette Binoche avec des vrais malades mentales dans cet hôpital psychiatrique. Mais le problème est que pendant tout ce film, moi j'ai vu uniquement Dumont qui filme Binoche qui pleure, Binoche qui prie, Binoche qui est sans maquillage, et que c'était absolument insupportable. J'ai trouvé ça très maniériste, j'ai trouvé ça très artificiel, j'ai trouvé ça lourdingue, et j'ai vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas pris moins de plaisir au cinéma que devant ce truc. Alors Antonin, qui j'étais, lui est parti 10 minutes avant la fin. J'ai failli suivre, je me suis dit putain, je me suis déjà tapé 1h15 de cette merde, je veux au moins voir la fin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mourir, qui va se trancher les veines, il y a un truc qui au moins soit enfoncera le clou et va me convaincre que vraiment il faut qu'il arrête et qu'il se calme un peu et qu'il réfléchisse un peu à ce qu'il filme et qu'il arrête de se prendre pour un philosophe de mes couilles. Et enfin voilà, non, il se passe absolument rien de toute façon, voilà, c'était nul, ouais. Et sans aucun intérêt, c'était une perte de temps. C'était vraiment une j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, bah, et ouais. le pire est que au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, j'ai failli partir de la salle dans une séquence justement où Juliette Binoche pleure, voilà, elle chiale, elle essaie d'écrire une lettre à son frère, puisque le film est basé sur les correspondances de Camille Claudel et de son frère et sur les documents médicaux de l'époque, et donc une séquence où elle chiale, et puis il y a donc une malade mentale avec forcément édenté, puisqu'il a a priori fait un casting assez incroyable où il a été voir des malades mentales et il a fait ah celle-là elle, malade, non des, c'est des filles,
oui mais bon, quand même
non ah, des ouais, malades, non. Des ah, malades mentales, ouais. Parce que c'était que des filles, ouais. Et donc il a dû faire un super casting où ah celle-là elle a bien l'air folle, non elle a toutes ses dents, elle a une dentition normale, non je vais prendre celle-là, elle a l'air un peu moins folle mais il lui manque 3 dents donc je vais la prendre. Et donc cette séquence où Binoche chiale, voilà, c'est ce qu'elle fait pendant la moitié du film, elle chiale, un peu l'impression de revoir un Amour, quoi, en moins bien, alors que déjà Amour c'était pas bien. Et donc cette malade mentale vient la voir, et puis elle essaie d'être gentille avec lui, et là t'as Binoche qui se retourne donc face caméra et qui lui parle comme si elle parlait au spectateur en lui disant mais ça te plaît de me voir pleurer, hein, c'est pour ça que t'es venu, c'est pour me voir pleurer. Donc clairement là pour le coup ça s'adresse au spectateur, à savoir moi, c'est moi le spectateur, et là j'ai l'impression, putain, je viens juste de débarquer devant ton film et déjà tu m'accuses de venir pour regarder quelqu'un qui pleure, mais t'as à peine commencé, quoi, je suis curieux, j'ai envie de voir ce que tu fais. Et c'est pas la peine de m'agresser comme ça, quoi. Donc arrête de prendre les gens pour des cons, parce que là clairement il fout le spectateur à la place de la tardée mentale en plus, ouais. C'est pas super cool, c'est même carrément méchant. Et donc, monsieur Bruno Dumont, je vous emmerde.
Ouais, moi, je me suis cassé juste après le plan où d'un coup, on a un grand plan large d'une petite route de montagne où une voiture apparaît à gauche de l'écran. Où là, on se dit, eh putain, merde, on est dans un film d'ARS. Ça veut dire qu'il va falloir attendre que la petite voiture de 1915, donc qui va pas très vite, atteigne l'extrémité droite de l'écran. Et là, donc, on en a pour une minute de plan. C'est pas possible. Et tout le film, c'était un peu ça. J'avais l'impression de voir le volontarisme de Dumont, non seulement dans certains clichés comme ça du cinéma d'auteur, voilà, où il faut donner le temps au temps, voilà, faire quelque chose qui soit à la fois contemplatif pour que le sens advienne, et à la fois justement sur toute cette démarche de Dumont depuis ses premiers films que j'aime beaucoup, quoi. Enfin, il y a des films que j'ai adoré. Moi, j'ai Adevitch, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, mais c'est un film que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais donc, quelqu'un qui, voilà, est dans le rugueux, voilà, donc prend le réel dans ce qu'il a de plus dégueulasse, hein. Il y a quasiment ça.
C'est ce qui fait bien, c'est ce qui fait bien.
Malheureusement, c'est vrai que là, autant dans ces films, pareil, que je n'ai pas revu, ça m'apparaissait d'une belle évidence. Mais là, j'ai l'impression de voir le volontarisme total quand il y a Juliette Binoche, qui donc la star Juliette Binoche, nous apparaît sans maquillage et à poil lors de la première scène où on lui fout son bain. Je dis, ok, bon bah voilà, Dumont, il a décidé de torturer à la fois son spectateur et à la fois son actrice. Bon, d'accord, très très bien. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi pas? Et voilà, Dumont, ça a toujours été un peu ça. C'est un peu les deux pieds dans le crottin, le réel bien dégueulasse et les mains tendues vers le sublime, quoi, parce qu'il y a toujours, on attend que le miracle ou que la grâce advienne, et c'est vrai que dans ces films ça apparaît souvent, et là en l'occurrence c'est les deux pieds dans le crottin et c'est tout, parce
que
là
c'est très artificiel,
et en plus oui, il y a ce didactisme là où toute la nature un peu de religieuse ou mystique qui est propre au cinéma de Dumont est là théorisée parce que formulée par Paul Claudel,
et vas-y que je prie, ouais, et vas-y que j'enlève le ciel,
ouais on est dans quelque chose qui pourrait être comme Sous le soleil de Satan de Piala, sauf que là c'est nul, voilà.
Donc si vous voulez éviter Clémix Claudel, il passe au TNB, et puis tout de suite on va faire un petit extrait de Giuseppato dont on va parler voilà maintenant.
Tu sais comment je sais que t'es gay?
Vas-y.
T'as adoré Coup de foudre à Manhattan.
Tu sais comment je sais que t'es gay?
Non.
Je t'ai vu un jour bouffer des épinards en sauce avec du pain aux noix.
Tu sais comment je sais que t'es gay?
Non.
T'as placardé un arc-en-ciel sur ton pare-choc où il y a écrit « J'adore qu'on pose ses couilles sur mon visage ».
C'est gay, ça? Merde! Fais chier. Je vais t'arracher la tête, regarde ça. Je te la prends et je te la carre bien au fond, je pense. Va te faire foutre! Ah!
Voilà, ça c'était donc un extrait de 40 ans toujours puceau de Giuseppato qui revient avec 40 ans mode d'emploi. D'ailleurs, j'ai même pas fait le lien en fait.
Ça, faut quand même dire c'est This is 40, quoi.
This is 40, voilà, en version originale. Donc, il y a un spin-off de En Clock mode d'emploi, donc qui reprend en fait des personnages secondaires d'En Clock mode d'emploi, le couple d'amis, la sœur de cette fille dont j'ai oublié le nom.
Catherine Hegel,
voilà. Et qui donc vont fêter leurs 40 ans et avec leurs deux enfants. Et puis ils le vivent pas bien, et puis ils ont des problèmes de couple. Alors moi j'aime beaucoup Giuseppato, j'aime beaucoup aussi les films qu'il produit, forcément c'est très drôle, et même dans ses films comme son dernier Funny People, qui pour le coup était moins drôle, on avait beaucoup parlé à l'émission, de toute façon on avait fait une émission spéciale justement à l'occasion de sortie du bouquin aussi chez Capricci sur Giuseppato, ouais. Et moi Funny People c'est un film que j'avais beaucoup aimé, comme ses précédents d'ailleurs. Et sa série aussi Freaks and Geeks qu'il faut voir si vous l'avez pas fait. Là ça m'a posé un problème quand même, 40 ans mode d'emploi. J'ai pas passé un mauvais moment, loin de là, parce qu'il y a encore, comme dans tous les films de Apatow, des acteurs qui sont super chouettes et que j'aime beaucoup, alors que ce soit Paul Rudd, Jason Segel ou John Lito qu'on revoit d'ailleurs, et puis même sa femme Leslie Mann qui est pas désagréable, même si je la préfère dans Dernier Recours de Walter Hill où elle joue une pute et elle se fait péter la gueule, mais voilà, les acteurs sont chouettes, il y a de très très bonnes sorties, de très bons dialogues comme toujours chez Apatow, c'est très bien écrit, les références moi me parlent, donc du coup ça m'ennuie pas, je suis pas perdu et ça me fait rire aussi. J'imagine que quelqu'un qui n'a pas les références qui sont quand même extrêmement nombreuses dans le film peut très vite aussi être ennuyé par ça. Moi c'est pas mon problème, mais à côté de ça, le film, donc bon, c'était déjà le cas des précédents films d'Apatow, mais accumule des séquences un peu très stéréotypées, on va dire, à savoir là on va avoir le droit, donc du coup tous les problèmes de couple qu'on voit dans les films de problèmes de couple et tous les problèmes de quarantenaire qu'on voit dans les films de quarantenaire, mais en général la pâte Apatow transforme un peu tout ça, sa façon d'aborder justement les situations, de faire durer les scènes aussi, et puis ses personnages surtout bouleverse un peu tout ça. Là pour moi ça a pas fonctionné du tout, et j'ai eu l'impression de voir une succession de scènes qui qui ne menait à rien, qui ne disait pas grand chose. Et puis, et finalement, il me reste pas grand chose non plus, quoi. Et j'ai eu le sentiment que du coup, c'était pas un film, en fait, que c'était plutôt une sous-série, en fait.
Ouais, ça aurait pu très bien, vu que le scénario est extrêmement minimal, ce qui a absolument aucun enjeu scénaristique, on peut dire, si ce n'est de faire perdurer ce couple, mais c'est quasiment pas un enjeu dramaturgique très clair dans le film, quoi. À aucun moment on sent que c'est vraiment en danger. C'est vraiment un film qui pourrait être déployé sur 3-4 heures, ça serait la même chose, et ça serait pas chiant, je pense, mais ça serait pas non plus, ça passe comme ça.
Il aurait dû faire ça de la vie conjugale, je veux dire, en faire
Ouais, mais après, et c'est vrai que moi, là où il y a clairement un changement par rapport à ces autres films, je pense que c'est vrai que tous ces autres films mettent en scène des adolescents. Enfin, il y a cette chose-là, il y a vraiment un changement de paradigme. En gros, c'est que tous les films de Judd Apatow, c'était en général des adolescents ou des adultes coincés dans un corps d'adolescent, oui. 40 ans toujours puceau, ou Funny People également, avec le personnage d'Adam Sandler, qui avait toutes les attributs un peu de l'adolescent, c'est-à-dire une sorte d'égoïsme, une sorte de jouisseur invétéré, puis quelqu'un qui était relativement...
Mais qui ne prend pas ses responsabilités.
Oui, pas du tout de responsabilité, et qui n'avait un peu rien à foutre de son entourage, mais qui était tenté par une sorte... Et justement, en allant voir Leslie Mann à un moment, une sorte d'amour de jeunesse, ou c'était son ex-femme d'ailleurs, il me semble. Il y avait toujours ce truc-là chez Apatow, à la fois des adolescents, comme ça, et qui essayaient d'aller vers une sorte de normalité. C'est ce qui pouvait même énerver chez Apatow quelquefois, c'est que sur la fin des films d'Apatow, on sent très bien que tout tendait vers une sorte de retour à une structure de couple normale, avec enfants, maison et compagnie. Sauf que voilà, tous les films étaient quand même portés par justement une sorte d'énergie adolescente avec ces gens-là, d'une part l'humour, parce que des gens qui étaient coincés dans une sorte de corps d'adolescent quand ils avaient 40 ans et tout ça, enfin toute sorte d'énergie de cette sorte de logorée totale,
et
de tous les personnages,
besoin d'être drôle,
il y avait vraiment une sorte de geste, c'était un peu le Gizmo et le Mogwai, en fait, en quelque sorte, quoi. C'était qu'est-ce qu'on préfère dans les Gremlins, c'est les Gremlins, c'est pas le Mogwai, sauf que voilà, ça tend de toute façon, les films d'Apatow tendaient vers le Mogwai, mais là on commence dans Vicious 40 directement du côté du Mogwai, et on reste un peu avec eux parce que ça y est, on a affaire à des adultes, c'est là où il y a un vrai changement, qui eux tendent plutôt vers une sorte de retour à l'adolescence, ou voudraient ça, mais en même temps ne veulent pas vraiment, ce qu'ils veulent faire perdurer cet état un peu de vie adulte, un peu bourgeois.
Là, on a l'impression que c'est impossible, quoi. Surtout, c'est vraiment ça. Non, il faut pas, et on peut pas, de toute façon, redevenir adolescent. Faut prendre ses responsabilités, faut être sérieux, tout le bordel, quoi.
Ouais,
aucun moment, justement, dans ces séquences, dans 40 ans mode d'emploi, quand il y a un personnage qui va un peu, justement, partir en couille ou régresser totalement, on va le ramener, on lui dit, non, mais ça peut pas durer, faut arrêter, quoi. La séquence, par exemple, où ils vont, qui est très chouette, par ailleurs, parce que c'est plein de séquences que je trouve très chouettes, mais la séquence où, du coup, le couple va s'isoler dans un hôtel, va manger des space cakes, va faire n'importe quoi, va être débile, où du coup ils sont heureux. Oui, mais non, c'est bon, c'est juste un moment comme ça, mais faut pas que ça dure, quoi.
Oui, il y a ça. De toute façon, c'est clairement très clairement séparé, quoi. Il y a ces deux pôles là, une sorte d'adolescence un peu, le côté un peu régressif et tout ça, on est du côté des références culturelles et tout ça, on fait un peu n'importe quoi, et du côté d'une vie bourgeoise qui est quand même aussi passablement énervant. C'est peut-être parce que j'ai peut-être des problèmes de pognon en ce moment, mais je me dis à chaque fois que je vois des gens qui sont en train de se plaindre alors qu'ils se disent, on va être obligé de vendre la maison, mais putain, t'as une maison, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, t'es pas dans la merde, toi. Mais en fait, et je pense que même cette séquence là moi m'a gêné, parce que là j'ai l'impression de voir un auteur qui vieillit, ou qui va avoir vraiment besoin de se renouveler davantage que ce qu'il ne fait maintenant, parce que du coup moi cette scène là on l'a déjà vue non seulement dans des films d'Apatow, c'est notamment la scène où Paul Rudd justement va à Las Vegas avec Seth Rogen dans En Clock Mode d'Emploi, si je me trompe pas, où d'un coup on a un truc comme ça où ils font absolument n'importe quoi et c'est hilarant. C'est la scène du Ferry Wall dans une dernière des productions Apatow, Get Him to the Greek. C'est quand même beaucoup, c'est très très en dessous de ça, quoi, au niveau de l'énergie comique. Et c'est vrai que il y a toujours ces deux trucs là. Les films d'Apatow ne sont pas les films les plus drôles du monde, c'est au contraire des films qui sont assez émouvants, et c'est vrai que le côté drôle
c'est
assez
dépressif,
justement.
De toute façon, c'est toujours des trucs un peu dépressifs quand même, hein.
Ouais, il y a un aspect qui de toute façon c'est dépressif, et c'est parce que c'est extrêmement problématique, parce qu'il y a un truc qui est inconciliable quelque part entre ces deux polarités là, de l'adulte et du côté on va vers l'adolescence. Mais là j'ai l'impression que sur sur les deux tableaux, il perd un peu parce que c'est pas non plus très très drôle. Et j'ai l'impression, comme tu l'as dit, que sa vision du couple, effectivement, c'est une accumulation de clichés. Alors c'est pas très grave. À la limite, il faut mieux partir du cliché que d'y arriver. Okay, voilà, Hitchcock. C'est le fameux truc d'Hitchcock. Mais c'est vrai qu'au début, quand même, au bout d'une demi-heure, quand on a vraiment le mec qui se laisse aller, qui pète au lit, qui préfère regarder, c'est qui est un peu laissé aller avec ses filles, alors que la femme, au contraire, est très responsable, qu'elle reproche. Enfin, on a une accumulation de scènes. C'est un peu les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, quoi. Donc bon, commencer là-dessus, c'est pourquoi pas éventuellement. Mais c'est vrai que vu que le film ne décolle sur aucun ailleurs, le film se finit. On a l'impression qu'il a quasiment pas commencé et que au-delà du cliché, il y a pas grand-chose. C'est pas désagréable, mais c'est clairement beaucoup moins bon que ses précédents films.
Ouais. Donc This is 40, 40 ans mode d'emploi de Zapato qui passe à Rennes au Gaumont. On va s'écouter un petit extrait de Funny People encore, une pause musicale et puis on va parler du Magicien d'Oz. Donc comment ça s'appelle, The Great and Powerful Oz,
le Monde Fantastique 12,
voilà, en VF, de Sam Raimi. On en parle juste après ce petit morceau.
You know, the internet dating thing actually kind of works.
That's good.
I've actually been on a couple of J-dates.
No way, what's that?
Yeah. What's a J-date?
What, is that an internet thing I should know about? I don't do that shit.
It's a website where Jewish people can find each other.
Really? A whole list of Jewish people? I didn't think Jewish people like to be on lists. Because of the Holocaust.
Wow.
How's this going, by the way?
It's been great to meet you.
Many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. Pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm-hmm. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Yeah. Must be the season of the witch. Looking over his shoulder at me, and he's strange. Sure, he's strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Yeah. Beatniks out to make it rich. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Yeah, must be the season of the witch. Thank you.
when I look out my window. What do you think I see? And when I look in my window, so many different people to be. It's strange. Sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Two rabbits running in low ditch. Oh no. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Where'd I go? Where'd I go?
Voyons. C'est bien vous qui avez parlé, n'est-ce pas? Est-ce que vous le faites exprès ou bien êtes-vous incapable de choisir?
C'est ça l'embêtement. Hélas, jamais je ne peux me décider. Je n'ai pas de cervelle. Ce n'est que de la parole.
Alors c'est curieux, si vous n'avez pas de cervelle, comment pouvez-vous parler?
J'en sais rien du tout. Mais on n'a pas besoin de cervelle pour ça, on peut être éloquent sans cervelle.
Oui, je le crois en effet.
Il parle de nous. C'était dans l'ordre un extrait de Funny People, encore une fois de Judd Apatow, et puis Season of the Witch de Donovan, et à l'instant un extrait du Magicien d'Oz de Victor Fleming. Enfin, c'est lui qui est crédité au générique, mais bon, c'est une histoire intéressante, hein, mais il y a plein de réalisateurs qui ont participé au Magicien d'Oz, qui date de 39, et puis donc Sam Raimi signe un préquel du Magicien d'Oz cette semaine, le fabuleux machin et tout.
Ouais, le monde fantastique d'Oz, je crois.
Voilà,
je
c'est un titre en VF, en VO, c'est The Great and Powerful Oz. C'est justement comme ça que se fait appeler en tout cas le Magicien d'Oz dans l'original, et donc là c'est vraiment un préquel donc sur l'arrivée du Magicien d'Oz au pays d'Oz, en étant à la fois un remake et un hommage, comme il avait pu le faire justement avec son Evil Dead 2. J'ai l'impression c'est sensiblement la même façon d'approcher le remake entre guillemets, quoi, pour Sam Raimi, que j'adore. Même Sam Raimi, c'est vraiment un bonhomme qui voilà, je trouve que ce qu'il fait c'est formidable. J'ai revu Evil Dead 3 qui est lui aussi, enfin qui a exactement le même scénario que le Magicien d'Oz, là, que son Magicien d'Oz, et c'est merveilleux, quoi. Et même dans ces autres choses non horrifiques, je pense à Mort ou Vif, que j'ai revu il y a peu de temps aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir Mort ou Vif, en fait, avec malgré Sharon Stone et Leonardo DiCaprio. Voilà, il fait du western et c'est jouissif. Et même dans Spider-Man, voilà, c'est un truc que j'adore. Donc j'aime beaucoup Sam Raimi, vraiment, quoi. Et là, j'ai eu un problème. Et comment dire, à la fin du film, j'étais avec Antonin, donc le docteur Moreau, et il s'est tourné vers moi et je l'ai vu avec un sourire un peu béat. Oh, j'ai pris un vrai plaisir de spectateur, c'était génial. Et là, j'ai cru qu'il me faisait la même blague que pour Boule et Bill. Je me suis dit, ah, il va nous refaire le même coup, il va faire un éloge du film et tout machin. Et puis en fait, après, non, mais c'était vraiment génial. C'est tellement honnête, c'est tellement sincère, franc, tout le bordel. Il y allait comme ça dans le manichéisme puritain, Dieu pur et dur. Ce type apprend à être gentil. Et je me suis
là,
dit,
c'est un peu, tu déformes mes propos.
Pas du tout. Et c'est un type qui apprend à être gentil, c'est génial. Non, Antonin, c'est pas génial. C'est pas bien ce qu'il a fait. Tu te rends compte qu'il a fait un film Disney, c'est un pur film Disney, et qu'à aucun moment il y a quelque chose d'un peu subversif ou il y a un petit sous-texte ou quelque. Non, il fait rien. C'est le pire qu'il puisse faire, j'ai l'impression, malgré son talent de metteur en scène. Voilà, on peut pas lui enlever ça à Sam Raimi. Contrairement à un type comme Peter Jackson, mais Sam Raimi, il sait mettre en scène, quoi. Il a un vrai talent, il sait poser sa caméra, il sait filmer une scène, quoi. Mais voilà ce qu'il en fait. Il raconte l'histoire d'un bonhomme qui débarque donc dans un pays qui à la base un charlatan. L'idée est intéressante. Moi j'aime bien les films de charlatans en plus, surtout quand les charlatans parviennent à leur fin. Là le fait est que ce charlatan, évidemment, donc il va être confronté à une méchante sorcière, une gentille sorcière, dans ce que ça peut avoir de plus caricatural. C'est-à-dire que ça devient embarrassant même de voir Michelle Williams jouer la gentille sorcière et de faire simplement la cruche parce qu'elle peut rien faire d'autre. Et de voir Mila Kunis jouer la méchante sorcière et d'être affublée d'un maquillage encore moins effrayant que celui de l'original, ce maquillage vert. Déjà que c'était pas très effrayant dans l'original. Et de pas savoir faire la méchante non plus, quoi. Parce qu'il faut pas trop être méchante non plus, parce que c'est un film Disney. Et ce bonhomme qui va au fur et à mesure, du coup, devenir gentil et aider les habitants de Oz et décider de rester dans le pays parce que c'est tellement merveilleux, quoi. J'ai l'impression de voir un film qui regrouperait tous les clichés Disney, en fait, tout ce qu'il y a de plus horrible dans Disney, tout ce qu'on peut détester de plus dans Disney, et qui va les accumuler. Alors, en effet, il va les assumer, il va même les maîtriser. Je pense que tout dans son film, que ce soit les acteurs, la direction d'acteurs, les couleurs, la mise en scène, le cadre, tout participe à cette intention de base et qu'il arrive vraiment au bout de ce qu'il a voulu faire. Et le problème, c'est justement ça, ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire que cet objet consensuel, manichéen, caricatural du conte, en niveau psychologique même, tout en plus ne faisant preuve à aucun moment d'imagination, que ça soit dans les situations, dans les décors, dans les personnages, puisqu'il reprend exactement soit ce qu'il y a dans Le Magicien d'Oz, soit des choses que lui a pu faire dans ses précédents films. Voilà, Evil Dead 3, c'est exactement cette histoire-là, un type qui tombe du ciel et il y a une prédiction qui dit que ce type va les sauver, tout le bordel. Sauf que dans Evil Dead 3, il y a déjà ce que Sam Raimi sait faire aussi, c'est le slapstick, ce burlesque un peu violent, qui est merveilleux. Evil Dead 2 aussi pour ça est grandiose, et ce type a du talent pour ça. Et moi, c'est jouissif quand je vois Evil Dead 2, tu vois toutes ces séquences avec Ash qui se bat contre lui-même ou qui se bat contre les objets qui sont dans la maison. Et ce type est génial pour ça. Et là, même dans ces moments-là, dans Le Magicien d'Oz, quand il tente de faire de l'humour, ça tombe évidemment à plat, puisque c'est un humour Disney, dans ce que ça a de plus négatif. Et il n'y a aucune scène amusante ou drôle ou réussie à ce niveau-là non plus dans Le Magicien d'Oz, quoi. Du coup, je suis resté face à une incompréhension totale, face à ton plaisir de spectateur.
Ah ouais, ouais, et puis je récidive, même j'y ai repensé tout ça, et je trouve que c'est vraiment un très grand film. Pour moi, Sam Raimi, effectivement, qui, comme tu l'as dit, vraiment a commencé sa carrière parallèlement à celle des frères Coen, d'ailleurs, dans un cinéma postmoderne qui serait un petit peu dans un héritier de Tex Avery, hein, quelqu'un qui serait un iconoclaste, quelqu'un qui prend des genres, des archétypes et qui les démonte un petit peu justement par une sorte de burlesque gore, voilà, et qui est quelqu'un qui a une trajectoire intéressante qu'on peut très bien lire comme une sorte de dévoiement aussi, hein, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il s'est emparé de grandes figures populaires et qu'il a commencé à faire des films très sérieux, et notamment genre le Spider-Man, qui est vraiment une lecture du mythe en prenant toutes les implications et qui est quelque chose qui est complètement moraliste. Spider-Man, c'est un film moraliste, hein, c'est de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Comment articuler cette formule là en trois films? Et il le fait, et donc c'est un film qui forcément est du cinéma majoritaire, du cinéma qui peut être consensuel parce qu'il est dans une sorte de manichéisme, est un cinéma également qui est dépourvu absolument de cynisme, territoire sur lequel on pourrait très bien attendre ce genre de cinéma de petits malins. Les frères Coen n'ont pas du tout eu la même évolution de carrière. C'est des gens qui ont commencé dans le postmodernisme, qui ont continué. C'est pas du tout cynisme les cinémas des frères Coen, mais ce sont des gens qui sont nihilistes. Sam Raimi, au contraire, c'est quelqu'un qui a une vraie croyance, un humanisme. Et moi, je trouve que le monde fantastique 12 est absolument merveilleux là-dedans. Moi, j'ai évidemment, c'est un produit Disney, ça se voit. C'est vrai que l'humour est ras de plafond, c'est pas terrible. Et j'imagine que peut-être ça fait rire les gamins, pourquoi pas. Moi, ça me fait pas rire, mais je trouve qu'il y a une façon de s'emparer du conte qui est absolument géniale. Alors, effectivement, ce n'est pas une façon de s'emparer du conte comme pourrait faire quelqu'un comme Guillermo del Toro qui va aller chercher dans le conte ce qu'il y a de plus noir. Mais je pense que, au contraire de n'importe quelle production Disney, le monde Fantastic 12 n'est pas non plus dépourvu totalement de noirceur. Évidemment, il est dans un manichéisme relativement confortable. On a la méchante sorcière qui n'est pas donc Mila Kunis, qui elle au contraire une figure de l'entre-deux, mais qui serait, je crois que c'est Raquel Weiss, je sais plus, mais qui elle est la méchante sorcière. Et en fait, il s'empare de ces archétypes-là avec du bon et du mauvais. Mais je trouve qu'il y a eu, il y a une violence dans le film qu'on ne retrouvera pas facilement dans beaucoup de films de Disney. Je pense à la scène de notamment cette jeune, enfin cette paraplégique lors de la première scène du film qui dit ah t'es un magicien, tu fais voler les gens, mais fais-moi me lever, t'es un magicien, tu peux me refaire marcher. Bah, je trouve que c'est une scène qui est très violente et très émouvante.
C'est une cruauté qui est déjà dans l'original en fait.
Ah mais peut-être. Mais de toute façon, le film est un remake. Je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est autant un remake qu'un préquel du Magicien d'Oz. Il reprend cette idée de redéployer de faire une structure en écho avec une introduction de 20 minutes où il redéploie ce truc-là de façon fantasmagorique pendant 1h20 avec tous les personnages qui sont des échos. Alors le serviteur du magicien devient le petit singe avec des ailes. La gentille sorcière devient la sorte d'amour de jeunesse que James Franco, donc le Magicien d'Oz, ne se résout pas à finalement épouser ou aimer parce que soit il se déteste trop, il a l'impression d'être cynique, soit il s'aime trop, il ne veut pas sacrifier sa carrière ou son envie de gloire en tant que magicien. Et on retrouve toutes ces structures en écho là où on déploie sous forme fantasmagorique un vrai dilemme moral qui est comment il faut être un homme bon, quoi. Et c'est ça. Et c'est vrai que ça peut paraître complètement naïf et con. C'est clair qu'on est le cynisme n'a pas sa place là-dedans. C'est quelqu'un qui va apprendre.
J'attends pas de cynisme, Antonin, moi, de 2 heures de film. J'attends pas du tout que.
Non, mais qu'il soit cynique. De cynisme ou de subversion. Je pense qu'on n'est pas dans un.
Bah, l'honnêteté, j'aime le côté franc de Sam Raimi. Et quand il fait un film, justement, comme Evil Dead 3, qui est exactement le même point de départ, la même intrigue, la même histoire, même. Mais il garde un personnage, justement, qui est individualiste, qui est une petite ordure, et qui va malgré tout, du coup, malgré lui-même, en fait, sauver, du coup, le peuple de l'armée des ténèbres. Mais malgré tout, il garde un ton, il garde une, je sais pas comment dire, justement cet aspect burlesque et innovant et toujours à la recherche de quelque chose de non pas de spectaculaire, mais en tout cas de nouveau en fait. Et ça me plaît chez lui. Et dans tous ses autres films, quand il réexploite justement un genre, il apporte quelque chose de nouveau, il apporte une patte, quelque chose qui me botte vraiment. Et là, j'ai l'impression que je retrouvais pas du tout le Sam Raimi en fait dans ce film. Son mélange des genres, il le fait à la perfection. Et encore une fois, dans son dernier Jusqu'en Enfer, ce mélange des genres, même si c'était pas du tout, enfin c'était encore une fois une histoire similaire, mais ce mélange des genres entre humour justement et puis horreur, c'est l'un des rares à savoir le manier comme ça.
Ouais, je pense que l'humour, c'est vrai que qu'on peut retrouver dans Jusqu'en Enfer de façon d'employer des figures comme ça et de justement ce côté de Sam Raimi un peu iconoclaste de savoir très bien qu'il est dans le genre et les utiliser. C'est vrai que dans Jusqu'en Enfer, il y avait un mélange de grotesque horrifique qui était particulièrement efficace et sidérant, qu'on ne retrouve pas totalement sous la même forme dans le monde fantastique d'Oz, mais qui finalement est toujours là de façon déguisée, dans une façon de s'emparer. Il y a pas un truc de petit malin, genre je prends ces figures là, on est dupe de rien, on sait très bien que c'est un peu ridicule, donc je les filme comme des sortes de figures un peu ridicules. Non, il y croit vraiment. C'est même pas qu'il y croit vraiment, mais en tout cas il les emploie, c'est de façon cash, quoi. Je prendrai la scène d'un coup James Franco qui est devant Michelle Williams, qui ne reconnaît pas, enfin il ne reconnaît pas que c'est son amant de jeunesse et tout ça. Non, voilà, ça passe tout seul, voilà, il est là et il y a cette sorte de les trucs qui sont, Sam Raimi pose les choses. Et voilà, il y a une croyance dans un univers. Et je trouve que là où le film remporte complètement le morceau, c'est au niveau de la mise en scène. C'est que au niveau de la 3D, c'est une des meilleures utilisations de la 3D que j'ai pu voir. Je trouve que c'est assez sidérant le savoir-faire en tant que metteur en scène de Sam Raimi dans le dynamisme que ça peut avoir dans toutes les scènes d'action. Et le film, voilà, regorge de scènes d'action, évidemment. Et je trouve que dans l'utilisation des effets spéciaux numériques, c'est absolument fascinant de virtuosité, et moi ça m'a complètement emporté. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est vrai que Sam Raimi, je pense pas que ça soit un cinéaste de premier ordre, mais c'est en tout cas un metteur en scène de premier ordre qui, pour moi, est avec George Miller, Spielberg ou James Cameron les cinéastes populaires majoritaires les plus doués du temps.
Ça, je
trouve que voilà, dans le monde fantastique 12, on a ce truc là c'est hallucinant. Voilà, moi je trouve que le film s'ouvre sur l'intro, toute la scène, c'est en noir et blanc, voilà, et puis après on va aller dans un cinémascope en 3D et en couleurs chatoyantes, voilà. Je trouve que toute la transition entre les deux, c'est enfin voilà, il y a quelque chose qui est absolument brillant et qui est, voilà, il y a des ponts aussi à dresser avec le précédent film de Scorsese, bizarrement, qui était Hugo Cabret, qui était une merde,
un film d'antiquaire,
vraiment un film absolument horrible, mais qui se termine de la même façon, où là on voit bien que Sam Raimi refait une déclaration d'amour au cinéma dans le monde fantastique d'Oz, parce que voilà, on se rend compte que lui, le Oz, son truc, c'est le plus grand magicien pour lui, c'est Thomas Edison, quoi. Donc lui, il va à la fin, voilà, résoudre le truc en inventant une sorte de projection. Et donc il y a une sorte d'éloge du cinéma en tant que, mais vraiment fête foraine, quoi. Et ce qu'est la 3D, voilà, une sorte de truc qui serait que un cinéma de sensations, qui t'emporterait, un truc de sidération, de bonheur à voir des choses absolument nouvelles se déployer sous tes yeux, tout en sachant que c'est une illusion, mais de s'y laisser complètement prendre. Et je trouve que autant Hugo Cabret ne fonctionnait pas du tout là-dedans, parce que c'était assorti en plus d'une philosophie un peu débile et qui avait pas justement voilà ce côté bricolé, parce qu'il était dans une sorte de débauche de style qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Autant là, je trouve que c'est assez sidérant. Évidemment,
Oz, film... c'est une croûte numérique.
Ah non, mais moi je trouve que de la même façon que l'Odyssée de Pi, moi que j'avais mis dans mon top 5 et tout ça, c'est je pense qu'on peut très facilement traiter ça de croûte numérique. Et j'attends de voir ce que le temps fera à ce genre de film. Comment on pourra les regarder dans 10 ans? Est-ce qu'on trouvera que ce sera des films justement, mais qui auront hyper vieilli dans les effets spéciaux? Mais j'ai l'impression que le talent de metteur en scène de Sam Raimi fera que ça n'aura pas si vieilli que ça, parce que voilà, ça me venge complètement de Bilbo le Hobbit, par exemple, de Peter Jackson, où là on a vraiment un personnage qui est là, qui découvre un monde qui se déploie sous ses yeux, et même si c'est un imaginaire voilà, qui est vraiment enfantin, manichéen et tout ça, je trouve ça vraiment sidérant, quoi.
Bon, et bien donc le Oz passe au Colombier, on fera et à l'Arvor, et au Gaumont, pardon, il pourrait passer à l'Arvor, tu me diras, mais on fera gagner des places de cinéma à la fin de cette émission. D'ailleurs, pour le Colombier, on va se faire une toute petite pause avec un extrait d'Evil Dead 3 justement, et puis on parle rapidement de Clou d'Atlas des frères et sœurs Wachowski.
Un autre candidat? Y en a un autre à qui ça plairait? Aucun client? Allez, approchez. Bien sûr, non, content. Non? Qui c'est le plus méchant? Toi. Non, non, cherche pas, c'est toi. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, t'as dit oui. Un petit coup! Hein?
Voilà, c'était donc un extrait d'Evil Dead 3 de Sam Raimi, qui est génial. Je l'ai revu en partie aujourd'hui. C'était un pur plaisir. Et puis, pour terminer cette émission, on va parler rapidement de Clou d'Atlas des frères Wachowski, qui est sorti déjà il y a pas mal de temps aux États-Unis. Hein, c'était l'été dernier, je crois, et qui a fait un gros four qui faisait suite à leur autre gros four qui était Speed Racer. Donc, les frères Wachowski qui avaient fait la trilogie Matrix et puis qui avaient produit aussi V pour Vendetta. Et puis, je crois que c'est tout d'ailleurs. Et qui reviennent donc avec Clou d'Atlas, qui est un film très ambitieux. Je crois que c'est ça qui m'a plu surtout dans le film, qui m'a surpris puisque donc le film est très long, il dure 3 heures je crois, ou presque 3 heures, ouais. Et qui va donc raconter la même histoire mais développée sur 6 époques différentes et puis 6 genres, je crois que c'est 6 hein, ou 7, je sais plus, 6 genres et 6 époques différentes. Donc on va avoir les années 70, le post-apocalyptique, le futur, je sais plus ce qu'il y a encore,
le film d'aventure,
il va y avoir le mélodrame un peu dû à la fin du siècle d'avant, enfin voilà,
la comédie,
ouais. Ils vont mélanger plein de genres avec à chaque fois les mêmes acteurs qui vont être maquillés. Donc on a Tom Hanks qui, à ma grande surprise, m'a moins supporté que d'habitude, peut-être justement grâce à son maquillage. Alors, je sais que le maquillage des acteurs, ça a gêné plusieurs personnes. Moi, au contraire, ça m'a plu et je l'ai trouvé très réussi plusieurs fois. Le maquillage, donc il y a Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant qui m'a surpris aussi. Et c'est vrai que bon, il y a un petit côté au début, en tout cas dans la première heure, j'étais là, donc essayer déjà de me repérer dans les époques, me repérer dans les acteurs, où est-ce qu'ils veulent en venir, tout le bordel. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils racontent à peu près à chaque fois donc la même histoire développée sous des genres différents et puis sous des époques différentes, en accumulant là aussi les stéréotypes et les clichés, hein, suivant les genres et les époques. Hein. C'est-à-dire que on va avoir le mélodrame victorien, comme on l'a dit, le film de complot dans les années 70, le voilà, bref. Donc ils accumulent un peu tout ça et ils racontent à peu près donc toujours la même histoire, comme celle de Matrix d'ailleurs, à savoir un personnage qui va devoir se battre contre une forme d'oppression ou de pouvoir qui cherche à les foutre un peu, les rendre en esclaves ou je sais pas quoi. Voilà, c'est à peu près toujours la même histoire, mais malgré tout. J'ai entendu des histoires de nanars ou de pur chef-d'œuvre. J'ai l'impression d'avoir vraiment les deux échos sur les critiques. Soit c'est vraiment un film incroyable qui bouleverse le cinéma parce que ça transforme tout. Soit c'est un gros nanar. Et non, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Moi, au contraire, j'ai eu l'impression d'avoir un film ambitieux. Donc, et ça m'a botté. Ce qui m'a surpris, c'est d'être entraîné par l'histoire, finalement, après cette première partie où on a un peu de mal à rentrer dedans parce que tout se mélange, parce que on sait pas très bien où est-ce qu'ils veulent en venir. Et les deux dernières heures m'ont vraiment emporté, c'est-à-dire que le montage, l'écriture a été extrêmement maîtrisée. Moi, ça m'a vraiment surpris d'être capable de maîtriser toute cette matière, justement, et de l'amener quelque part sans la ramener à un twist ou à un film choral basique. C'est-à-dire que pour moi, en effet, oui, il y a quelque chose d'un peu nouveau là-dedans, et ça me plaît vraiment. Par contre, le problème que j'ai eu, c'est qu'à la fin, je me dis, ah, c'était brillant, c'était vraiment extrêmement maîtrisé, mais finalement, c'est un peu vain, ça mène pas à grand-chose, même si je suis content qu'il ne soit pas tombé dans pas mal d'écueils du film choral ou du film de Petit Malin. Malgré tout, il me restait pas grand chose et j'avais l'impression déjà qu'il se répétait vachement et puis que le côté spectaculaire que je pouvais attendre n'était pas forcément là non plus. Donc moi c'était malgré tout une bonne surprise parce que j'attendais vraiment rien de ce truc et en même temps même si j'ai pris un minimum de plaisir à voir ce film parce que du coup c'est extrêmement maîtrisé, c'est très bien rythmé. Moi, ça voilà. Et ben, il m'en reste pas grand chose. Et je sens que c'est un peu vain, ouais.
Ouais, ouais, bah écoute, ouais, tout pareil que toi. Hein. C'est vrai que. Non, j'ai pas grand chose à rajouter d'autre. Hein. C'est que. Ouais, voilà, après, c'est ce qui m'étonne, oui, c'est la réception du truc. C'est vrai qu'il y a des trucs hyper violents contre le film qui disent que c'est incompréhensible et que c'est un truc New Age et tout ça. Pas tant que ça.
Non,
effectivement,
non.
Encore une fois, voilà, les Wachowski. Enfin, croit vraiment à un truc de réincarnation bouddhiste.
Oui, c'est
pourquoi pas.
Ça.
Moi, ça me dérange pas. J'y non. crois pas, mais je m'en fous. Du moment que c'est bien fait, voilà, je m'en fous. Là, le seul truc, c'est que je me suis fait abominablement chier pendant le film. Mais j'ai absolument rien contre. C'est que c'est effectivement, bah voilà, c'est pas nul à chier. Ça, y a pas de débordement de toutes parts. Mais à la limite, moi, c'est vrai que Speed Racer, que je n'ai vu qu'une fois, hein, que j'irai peut-être pas revoir, surtout pas sur un petit écran, m'intéressait plus parce que là, c'était complètement fou quoi. Enfin, il y avait un truc qui était con, enfin qui allait très très loin dans une forme de nouveau cinéma qui ferait fi de la question de point de vue, par exemple.
Il y a quelque chose d'assez radical dans leur façon d'approcher quand même leur sujet, et c'est impressionnant malgré tout quoi.
Mais là, pour le coup, c'est vrai que Clou d'Atlas, moi je trouve pas ça complètement fou. Je trouve que c'est une prouesse narrative, certes une prouesse d'écriture, parce que il y a trois cinéastes qui sont là-dessus, hein. C'est Tom Tykwer aussi, ils ont filmé chacun de leur côté à différentes histoires. Et bah voilà, tout ça s'articule relativement bien. Moi, c'est juste que ça m'emmerde pas mal, quoi. Voilà.
Voilà, donc c'est des Clous d'Atlas, des frères et sœurs Wachowski qui sortent au Gaumont, oui. Et puis, il est temps qu'on arrête cette émission. On rappelle donc que tous ces films-là, vous pouvez les voir. Ah, il y avait des annonces spéciales, c'est ça que je voulais dire. On fera pas d'émission la semaine prochaine a priori, mais cette semaine il y a quand même aussi donc deux trucs qui sortent, pas Arène les coquillettes de Sophie Turner qui se fait démolir par tout le monde, c'est assez rigolo. Mais les coquillettes ne sortent pas Arène, et il y a aussi The Place Beyond the Pines de Direction France avec Ryan Gosling et Eva Mendes qui sort pour le coup lui au Gaumont, donc c'était le réalisateur de Blue Valentine.
Notre top de 2011 et notre top 2010.
Voilà, donc ça c'est les deux sorties de la semaine. Qu'il y a aussi donc Voyage à deux qui passe ce soir mercredi au Tambour, ouais, à Rennes, voilà, à Rennes 2. Et puis c'est à peu près tout en séance. Et puis annoncer la sortie de Jean-Marie Magazine quand même. Donc toi tu peux en parler, Antonin.
Ouais, Jean-Marie Magazine, c'est une sorte de bah, de magazine, voilà, très peu d'exemplaires, fait par des passionnés. C'est le deuxième ou le premier numéro après un numéro zéro. Qui est disponible donc en vente à l'Alphagraphe pour la modique somme de 10 euros, putain c'est cher, et auquel j'ai contribué. Voilà, c'est tout.
Voilà, Antonin a écrit donc dans le Jean-Marie Magazine qui donc sur un ciné, donc le cinéma sur
le cinéma et les îles.
Le cinéma et les îles. Ouais. Voilà. Donc ça vous pouvez le trouver à l'Alphagraphe de Jean-Marie Magazine, et puis il y avait encore autre chose qu'on devait annoncer.
Bah, on va quand même donc d'ores et déjà, enfin, on l'a déjà fait, mais réannoncer la séance de la prochaine séance du Fist qui sera donc Calmos, donc de Bertrand Blier, quand même un film, un très grand film féministe, qui aura lieu donc le 16 avril, donc au Diapason, qui est donc intégré et donc convié donc par la association, l'excellente association Cinémaniacs, et donc Calmos qui aura lieu donc 16 avril avec les animations du Fist habituel, des cadeaux, et tout, et bah voir ça sur grand écran, ça va être génial.
Est-ce qu'il y a d'autres annonces?
Écoute, oui, ce soir pour les séances spéciales, tu l'as dit. Peut-être
le Voyage à deux, oui.
Pas, donc tu l'as dit.
Oui, je l'ai dit. Ouais. Voilà, c'est putain, merde, fais un effort. Ouais, merde, et puis vous pouvez
autre chose.
Donc avant le générique de fin ou pendant le générique de fin ou plutôt après le générique de fin de cette émission, vous pouvez gagner des places donc pour le Colombier en nous appelant au 02 99 52 77 66. Voilà, on se quitte, on se retrouve très bientôt. On va se quitter avec un extrait du Magicien d'Oz, justement, de Victor Fleming, et on se retrouve très bientôt. Merci Antonin, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous embrasse, bisous, ciao.
Bisous.
Oh bonne fée, aidez-moi à rentrer chez moi. Oh non, ce n'est pas la peine que je t'aide, car tu pouvais retourner aisément au Kansas.
Kansas, comment?
Il fallait le lui dire plus tôt.
Mais non, elle se serait reposée sur moi. Je tenais à ce qu'elle réfléchisse.
Qu'avez-vous appris, Dorothée?
Ben, c'est-à-dire, quand j'étais au Kansas, ce n'était pas très amusant de voir tout le temps l'oncle Henri et tante Olympe. En attendant, si je peux encore agir à ma fantaisie, soyez tranquille. Oh non, je ne quitterai plus notre maison maintenant. Parce que si j'y étais restée, je n'aurais jamais regretté de m'être sauvée. C'est vrai? C'est tout.
Ben, ça c'est facile. Et j'aurais pu y songer pour vous.
Et je l'aurais deviné dans mon cœur.
Non, elle devait le trouver toute seule. Maintenant, ces souliers de rubis vont te ramener chez toi en deux secondes.
Oh, Toto aussi?
Toto aussi. Oh, quand donc? Mais quand tu voudras.
Oh, ciel! C'est trop beau, c'est merveilleux. Oh, il faut nous séparer. Alors, j'ai de la peine. J'ai de l'affection pour vous.